sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Louis Audebert. La gourmandise de ce matin est le récit autobiographique drôle et cruel d'Igmar Bergman, paru sous le titre Laterna Magica, et dans lequel le cinéaste souhaite la mort de la plupart des êtres qu'il côtoie. Je vous lis un extrait. Naissance de ma sœur, j'ai 4 ans, la situation se transforme de façon radicale. Soudain, un personnage gras et difforme tient le rôle principal. Je suis chassée du lit de ma mère, mon père se penche rayonnant au-dessus de ce baluchon qui hurle. Le démon de la jalousie plonge en moi ses griffes, je suis furieux, je pleure, je fais caca sur le parquet et je me salis. Mon frère aîné et moi, à l'ordinaire ennemi mortel, faisons la paix et nous élaborons différents plans pour tuer l'infâme créature. Écrivain francophone le plus traduit au monde, notre apothicaire de l'âme est un humaniste né au Maroc dont le nom sera donné un astéroïde. Bien avant cela, il fréquente le lycée français de Tanger et fait des études de philosophie à Rabat où il écrit ses premiers poèmes. Il enseigne ensuite la philosophie au Maroc, poursuit des études de psychologie à Paris et publie ses vers. Il collabore au Monde. Je parle du quotidien, mais en écrivant cette phrase, je me suis dit que c'est ce qu'il faisait aussi à grande échelle. Il collabore au Monde, puis obtient un doctorat de psychopathologie sociale. Nous sommes dans les années 70, il ne se doute pas qu'un de ses romans obtiendra le prix Goncourt la décennie suivante. Passeur bienveillant entre l'Occident et le monde arabo-musulman, le conteur, peintre et membre de l'Académie Goncourt a depuis tissé une œuvre foisonnante. Auteur d'ouvrages éclairants et salutaires pour les futurs adultes, il a publié cette année chez Gallimard la philo expliquée aux enfants ainsi que le roman Le miel et l'amertume. Bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Eva, bonjour. Merci de m'inviter parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup cette émission qui est très différente de tout ce qu'on écoute à la radio en général.
Bah, je suis très flattée, merci.
Non mais c'est vrai, j'écoute surtout le soir parce que le dimanche matin je travaille, mais le soir je vous écoute, c'est retransmis à partir de minuit je crois.
Bah, merci, écoutez, je suis très flattée, je sors du générique pour me donner une contenance.
Non mais c'est bien.
Tahar Benjelloun, ce qui ressort dans votre œuvre, c'est que il y a de l'émerveillement, il y a de la joie pure et il y a aussi beaucoup de gravité, de noirceur, de ténèbres abordées sans essayer de les éluder. D'où la première question de l'émission inévitable, mais qui m'intéresse doublement, c'est-à-dire vous dans le réel et vous dans la fiction. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Oh, la mélancolie, je m'en méfie, un peu comme la nostalgie.
Que vous détestez, vous dites dans tous vos livres et interviews que vous la détestez,
oui,
la nostalgie.
Parce que la nostalgie, c'est, comme disait Léo Ferré, ce sont les souvenirs qui s'ennuient. Et la mélancolie, c'est une défaite, une sorte de retrait, une sorte de tristesse. Dans le mot, il y a noir.
L'abîme noire.
Oui, quelque chose de noir. Et moi, j'évite parce que, quand quelqu'un est mélancolique, j'essaie un peu de le faire rire ou de le faire danser pour sortir de cet état de tristesse qui est pas uniquement de tristesse, mais un peu d'abandon. Il y a un peu un retrait du monde. Et ça, c'est, je suis en train de lire le livre de Bernard Pivot sur la vie continue, mais la vie continue. Il parle de la vieillesse, mais c'est extraordinaire. À son âge, il a besoin encore d'être entouré de gens qui croient à la vie, qui croient au bonheur, qui croient au jour et à la lumière. Et nous avons tous besoin d'être entourés de gens qui vous apportent quelque chose de positif. Si on vient pour vous vraiment donner une claque en disant rien ne va, tout est noir, il n'y a pas d'issue, le virus va tuer tout le monde. Alors là, il n'y a plus besoin de discuter, il vaut mieux rester seul.
Mais vous, Tahar Benjelloun, vous n'hésitez pas à descendre dans la sombreur. Je pense par exemple, vous avez écrit sur la maladie d'Alzheimer et les derniers jours de votre mère, vous avez écrit sur votre cancer de la prostate dans l'ablation, vous avez là dans le dernier roman Le miel et l'amertume paru chez Gallimard, Il est question de suicide, il est question de désamour, il est question de vieillesse, de dégradation, de malheur, de haine. Vous n'hésitez pas à y aller, ça ne vous fait pas peur cette gravité?
Cette gravité est toujours accompagnée quand même d'autodérision et un peu d'humour. Même dans Le miel et l'amertume, ce dernier roman qui vient de sortir, j'attaque un sujet qui m'a habité, qui m'a vraiment accompagné depuis très longtemps, parce qu'il s'agit vraiment de ma nièce qui a été abusée à une époque où personne ne parlait de ça au Maroc, et son suicide a été la tragédie qui va détruire toute la famille. Et j'ai vu que cette famille a été détruite parce que par la culpabilité et par le fait que ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont su que plus tard que elle avait des liens avec ce pédocriminel. J'utilise pas le mot pédophile parce que c'est incorrect. Le mot pédophile,
oui, ça veut dire aimer les enfants. Aimer les enfants, et c'est
mais
le cas de la plupart des gens.
Pédocriminel, pédosexuel, c'est celui, oui, qui profite des enfants pour les abuser. Et donc ce roman, j'ai dû l'écrire tout en glissant quand même de temps en temps quelques moments d'humour, et notamment un personnage
très lumineux.
Lumineux.
Oui.
Le Mauritanien.
Oui.
Et qui est merveilleux.
Viad. Oh, magnifique.
Viad, parce que j'ai connu en Mauritanie effectivement un ami qui s'appelle Bios. J'ai dit, tu vois ce nom. Il me dit ce que c'est. Et Viad, c'est la même chose. C'est la vie est impossible sans amour et dignité.
Donc toujours, Tahar Ben Jelloun, des lueurs, même dans la pire des noirceurs.
Ben oui, dans un autre livre comme Le mariage de plaisir, il y a un enfant trisomique, qui s'est inspiré du mien, de Amine, et qui est l'enfant qui apporte la solution, l'enfant qui apporte la lumière, l'enfant qui apporte le rire. Et c'est vrai, mon fils Amine est merveilleux, il nous fait rire, il danse, il chante, il est champion de natation, il est dans la vie. Alors que tout le monde, quand on entend handicapé, on imagine quelqu'un qui est triste, qui est... Bon, non, pas du tout. On a inculqué chez lui cette envie de vivre, et il vit très bien.
On va revenir à ces idées, Tahar Ben Jelloun. Oui. J'annonce le sommaire aux auditeurs. Vous allez convoquer Igmar Bergman, La Tante Amoureuse, La Moitié d'un Verre, Cervantes, Spinoza, Ray Charles, Jean Ferrat, Matisse et La Toscane. Juste après un titre de la playlist France Inter, Bonnie Banane, Flash. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Tahar Ben Jelloun et Igmar Bergman.
Yak la you. Yak la gamle idiot. Hur gammal är du egentligen?
Jag? Jag vet inte, vet du?
86.
Nej, inte du. Jag.
Ja, 55 någonting.
Jag är 63.
Alltså du, så gammal.
Och så har de tagit ifrån mig både äggstockar och livmoder.
Är du ledsen för det?
Ja, ibland.
2003, le dernier film de Bergman, Sarabande, tourné pour la télévision suédoise avant de sortir au cinéma. Film qui porte le nom du mouvement introductif des suites pour violoncelle seule de Bach. Et là, on entend les personnages incarnés par Liv Ullmann et Erland Josephson qui se retrouvent après 30 ans sans se donner de nouvelles. Alors, je traduis brièvement parce que je sais que vous parlez couramment suédois, Tar Benjamin.
Tout à fait, oui.
Là, en gros, il se retrouve, il a 86 ans, elle en a 63, il s'exclame pour la taquiner, tu es si vieille que ça.
Et des photos.
Oui, ça c'est au début du film, elle regarde les photos pour expliquer. Et elle lui dit qu'on lui a enlevé les ovaires et l'utérus. Il demande si ça la rend triste, elle répond oui parfois. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils disent tout ça avec légèreté.
Légèreté, en Suède la légèreté elle est difficile, hein, parce que c'est il y a un climat là-bas qui est terrible.
Ah oui.
Un climat terrible et puis ils sont sérieux, il y a pas beaucoup d'humour.
Mais chez Bergman, il y a beaucoup d'humour.
Chez Bergman, mais lui, c'est un créateur, c'est un artiste, qui était assez cruel.
Cruel, beaucoup, énormément de cruauté.
Oui, bien sûr.
Il y a dans les rapports dépeints dans ce film, Sarabande, il y a un peu tous les thèmes que vous abordez, Tahar Ben Jelloun, parce qu'il y a les corps vieillissants. C'est très émouvant quand on les voit dénudés à un moment, vulnérables, abîmés et beaux.
Oui, en même temps, pourquoi arrêter l'amour à un âge? L'amour n'a pas d'âge. Et l'amour n'a pas de limite. Et en plus, tant que c'est fait dans la sincérité et la vérité, c'est formidable. Et Bergman avait cette capacité extraordinaire de nous parler de l'humanité, de la condition humaine, avec beaucoup d'exigence et beaucoup de cruauté parfois, mais beaucoup de vérité et de sincérité.
Les rapports familiaux, comme souvent chez Bergman, sont presque parfois monstrueux.
Ben oui, parce que le rapport entre le fils et le père, dans ce film, est terrible. Il y a des scènes qui sont déchirantes, qui sont insoutenables parfois entre le père et le fils.
De haine.
De haine, et puis le fils qui a déçu le père, et que le fils qui devient dépendant du père, et qui réclame de l'argent.
Et de sa fille, puisqu'il a perdu sa femme aussi.
Oui, c'est terrible. Non, c'est un film extraordinaire. La mélancolie, là, ne joue pas tellement. Là-bas, plutôt...
Ah bon ?
Il y a...
Un désespoir existentiel, malgré tout.
Il y a un bonheur, comme disait Victor Hugo, le bonheur d'être triste, mais il n'y a pas beaucoup de tristesse malgré tout chez Bergman.
Ah oui, j'ai trouvé qu'il y avait du désespoir dans ce film.
Désespoir,
par exemple,
autre chose, c'est pas la tristesse.
Ah, vous séparez Tahar Ben Jelloun, le désespoir et la tristesse, il s'acoquine un peu.
Oui, mais désespoir, c'est grave.
Ouais,
la tristesse, ça peut être un état d'humeur. On est triste parce que on n'a pas eu l'objet convoité.
Vous dites, Tahar Ben Jelloun, dans cet ouvrage que j'espère beaucoup d'enfants liront, La philo expliquée aux enfants, vous dites, à l'article violence, la vie est violence, ce qui est vivant est forcément violent. Ça paraît très simple dit comme ça, mais c'est la première fois que je lis une phrase aussi évidente.
Ben, j'ai appris ça de Jean Genet.
Sur lequel vous avez écrit.
Qui faisait une vraie différence entre la violence et la brutalité. Parce que la violence, c'est sortir le poussin. Il pousse. Enfin, tous les animaux qu'on voit dans les reportages, ils poussent pour sortir. L'enfant, c'est la mère qui pousse pour qu'il sorte. Il y a une violence dans la vie.
Dans l'effort.
Bon, dans l'effort. La brutalité, c'est la violence avec la cruauté et avec l'intention de faire très mal. L'histoire est brutale, mais la vie est violente et c'est une violence qu'il faut canaliser parfois.
Tahar Ben Jelloun, là on vient d'évoquer Bergman, je sais que le cinéma était très important dans votre rapport à l'écriture,
oui.
Notamment dans l'atteinte de la simplicité. Vous dites que Fritz Lang, Orson Welles et Louis Buñuel vous ont enseigné à écrire.
J'ai appris à écrire parce que prenez un film d'Orson Welles, n'importe lequel, ou même d'Hitchcock, vous avez dans les deux premières minutes, le cadre est posé, il y a pas une image en trop. Et il y a la rigueur, il y a raconter, il raconte une histoire. Il faut apprendre à raconter. Et j'ai appris à raconter une histoire en regardant beaucoup ces films. Et j'ai regardé plusieurs fois, j'ai fait des stages de ciné-club quand j'étais plus jeune, etc. Donc, le cinéma m'a aidé beaucoup à écrire.
Je t'attends. Viens. Ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps et cours. Je t'attends, mon rêve inconnu. Quel est ton nom? Quel est ton but? Le mien c'est. C'est l'amour.
Je t'attends, d'Aznavour, pour introduire l'activité qui vous grille, Star Benjeloun, donner rendez-vous à la personne aimée et l'attendre. Est-ce que l'attente est mieux que la présence, finalement?
Non, je dirais pas ça. Donc, la présence est désirée et aimée, il n'y a pas mieux. Non, mais là, c'est vrai que l'attente est une douleur et est une souffrance parfois. Mais plus on s'approche du moment où la porte va s'ouvrir, plus on est heureux. Et c'est magnifique. C'est une jusqu'à aujourd'hui, quand j'attends la femme que j'aime, je suis réellement ébloui par l'attente. Mais il se trouve que cette femme est très ponctuelle. Elle arrive toujours à l'heure. Et quand elle a 5 minutes de retard, elle envoie un texto pour dire je suis en retard.
Donc ce n'est pas une torture.
Non, c'est pas une torture, mais il y a une autre attente par ailleurs.
Et elle n'est jamais déçue, cette attente, parce que parfois, quand on l'attente amoureuse, on imagine des choses, et puis finalement, quand le réel se produit, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait imaginé.
Mais quand on est très amoureux, on ne voit pas tout ça.
J'ai entendu
parler
de ça.
Et il faut être amoureux.
Bien sûr.
Tant qu'on est amoureux, on est vivant.
Alors, il y a une autre idée qui tourne autour de ça, que vous nous avez soumise, Star Benjeloun, c'est faire une rencontre amoureuse à Amalfi, c'est très précis, en sachant que cet amour est impossible, mais avec l'espoir entêté de le faire exister. En préparant l'émission, j'ai appris que la première fois que vous aviez mis les pieds dans cette cité médiévale, vous étiez très amoureux, et vous vous confiez à ce sujet à notre consoeur Dorothée Barba. Pourquoi un amour impossible à Amalfi?
D'abord, Amalfi est d'une beauté sublime, absolument. Et c'est très romantique. C'est pas mélancolique du tout, c'est très romantique. Bien, c'est l'amour interdit, c'est l'amour de la fuite, c'est l'amour de la trahison, c'est l'amour de l'infidélité. Donc c'était un amour...
L'amour douleur, alors, l'amour passionnel.
Passionnel,
destructeur.
Absolument. Et quand c'est un amour est passionnel, on est hanté par la fin, on est hanté par le moment où la flamme va s'éteindre.
Mais ça, pour vous, Tahar Benjeloun, c'est un remède à la mélancolie. Moi, ça me paraît assez menaçant.
Non, mais c'est... Oui, ça peut être un remède à la mélancolie, dans ce sens-là, oui. Mais moi, je conseille à tous ceux que j'aime d'être amoureux, parce que ça veut dire qu'ils ont encore envie de vivre et de faire de belles choses.
Dans votre roman Le miel et l'amertume, le personnage Mourad, il a écrit une très très belle déclaration d'amour à une femme qu'il ne rencontrera jamais.
C'est bien.
Ça vous va, ça vous ressemble.
J'ai fait ça dans un roman, je sais plus un roman ou dans un poème. En fait, c'était un poème où je décris la rencontre idéale avec une femme que j'aimerais, tout ça. Et qui est très très longtemps, j'étais très jeune, et beaucoup plus tard, des décennies plus tard, j'ai ressorti ce texte et je l'ai montré à la femme que j'aimais à l'époque et je lui dis, tu vois, je t'attendais depuis si longtemps.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux de Sacha Distel et Henri Salvador? Ce n'est pas exactement l'idée que vous avez choisie pour l'émission, Tahar Benjeloun, mais ça s'en approche puisqu'il s'agit d'une chose dynamique, d'une décision, c'est de voir le verre à moitié plein. Est-ce que vous y arrivez facilement ou est-ce que ça a nécessité de l'entraînement?
J'ai tendance à le voir à moitié vide, mais j'ai tendance.
Ça me rassure.
En même temps, je lutte contre ça parce que parce que la vie est pleine de belles choses et pleine de surprises. Donc, je suis du côté du sourire et de la lumière.
Mais Tara Benjelloun, je pense aussi à dans la philo expliquée aux enfants, vous dites être léger, c'est prendre la vie du bon côté, ne pas dramatiser, ne pas donner de l'importance à des choses qui ne le méritent pas. Comment est-ce qu'on fait concrètement ?
Pour être léger.
Mais oui.
D'abord, il faut se débarrasser de tout ce qui est en trop. Les objets, les personnes qui vous enquiquillent.
Mais on va être très seul.
Non, au contraire, vous gardez les meilleurs, vous gardez ceux auxquels vous êtes le plus attaché. Quand c'est la même chose pour les objets, les habits, les trucs. Là, en ce moment, je suis en train de préparer un déménagement et je suis en train de me séparer de beaucoup de choses avec un bonheur infini. Il y a tellement, on amasse tellement de choses qui servent à rien.
Dans un instant, nous parlerons de la beauté des combats contre les moulins à vent. Juste après un titre de la playlist France Inter, Paul McCartney, Find My Way.
Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. I know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night.
You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside.
Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close, I'm open day and night.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Tara Benjelloun. Votre sérum littéraire est l'un des plus belles éloges de l'imaginaire qui soit. C'est Don Quichotte de la Mancha de Cervantes, merveilleuse parodie des romans de chevalerie. Parlez-nous de ce livre, Tara Benjelloun.
Pour moi, c'est le premier livre de la modernité. C'est le premier roman de la modernité. Et quand je le relis, dans la traduction d'Aline Schulman, qui est la meilleure traduction à mon avis, mieux que celle de la Pléiade, eh bien, j'ai l'impression que ça a été écrit par un ami mon voisin de palier avec un ami qui de ce temps-là. Et cet imaginaire fantastique, cette capacité de traverser une époque et un territoire avec un personnage caricatural et qui va très loin, qui pose des questions énormes sur le destin de l'humanité, sur la condition humaine, sur la condition de la vie, qu'elle soit quotidienne ou rêvée. Pour moi, c'est le roman qu'on peut relire à chaque fois et on y découvre quelque chose de nouveau.
Et surtout le fait qu'un individu puisse avoir raison contre toute une société.
Et surtout de mener des combats terribles.
Contre des moulins à vent qu'il prend pour des monstres.
Oui, mais ça c'est connu surtout pour ça, mais il y a d'autres choses.
Bien sûr. Il y a la sublimation du réel aussi, par exemple. Il voit les prostituées comme des princesses dans un château.
Il y a ça, mais surtout il y a, à mon avis, il y a le fait que il y a une écriture moderne. On raconte, c'est-à-dire que finalement, être chevalier à l'époque, c'est être romancier aujourd'hui. C'est raconter des histoires pour plaire, pour séduire, pour justement sortir les gens de la tristesse, de la mélancolie. Et c'est un livre où il n'y a pas une seule page de tristesse, il n'y a rien. Et d'ailleurs, c'est un livre plusieurs cinéastes ont essayé de le mettre en image, ils n'ont pas réussi. Jacques Brel a fait une pseudo-opérette, c'est pas très bon. Donc il résiste à toutes les interprétations par image. Donc c'est sa force et sa puissance.
Vous dites, Tahar Ben Jelloun, quand vous parlez d'écriture, la fiction est là où je me cache.
Oui. Parce que quand j'ai tout jeune, vraiment 20 ans, j'avais écrit un texte sur l'écriture. J'étais très jeune. Et je disais, j'écris pour ne plus avoir de visage. Je trouvais cette formule assez jolie. Après, j'ai réfléchi pourquoi j'ai dit ça. Et en fait, l'écrivain est quelqu'un qui doit pas se mettre en avant. Il doit se mettre plutôt derrière le rideau. C'est comme un auteur de théâtre, il n'est pas là. Les autres le jouent. Et un écrivain ne doit pas se mettre en avant, son image ne doit pas venir encombrer l'écriture. Et quand j'ai rencontré Jean Genet, on a une amitié de 10 années jusqu'à sa mort, il m'a appris ça. Il m'a appris ce que c'est que l'humilité de l'écriture et de l'écrivain. Pendant 10 ans, on avait des discussions terribles tous les jours. On n'a jamais parlé de littérature. Et sa littérature, c'est pas qu'il la méprisait, il l'ignorait totalement. Et je me disais comme un des plus grands écrivains du XXe siècle, voilà comment il se conduit.
Et vous avez dû écrire sur lui pour pouvoir parler de littérature avec lui finalement.
Oui, oui. Et quand j'écrivais le livre sur lui, je me souviens, je l'ai appelé et je lui ai dit, tu sais, j'écris un livre sur notre rencontre, tout ça. Il m'a dit, tu te démerdes. Je lui dis quoi? Il m'a dit, je peux te poursuivre comme je l'ai fait avec d'autres. Il a fait ça avec des amis. C'était un très bizarre. Enfin, on en parlera un autre jour dans une autre émission, mais c'était un type qui a compté beaucoup dans ma vie parce qu'il m'a apporté beaucoup. Il m'a apporté le sens de la rigueur et du travail, et de l'effort, et le sens de la modestie et de l'humilité.
Et l'amitié est très importante pour vous, Tahar Ben Jelloun. Oui. On aura peut-être l'occasion
d'en... Mais lui n'a aucun sens d'amitié.
Oui, c'est ce que vous avez l'air de décrire, effet.
Oui, tout à fait. Oui. Mais on a eu une amitié très forte, très dans des moments, des épreuves et tout. J'étais là et tout. Non, c'était quelqu'un de très intéressant et très important.
Alors, on va rester du côté de la pulsion vitale, donc plutôt du côté de Cervantes, en passant de l'Espagne au Portugal, Tahar Ben Jelloun, avec votre citation anti-spline qui est de Spinoza. Toute chose ou tout être, selon sa puissance, s'efforce de persévérer dans son être.
Ouais.
Bien sûr, vous la connaissez par cœur. Spinoza, c'est vraiment le philosophe de la joie, c'est le principe des bonnes ou des mauvaises associations. Pour aller vers la joie, il faut s'associer avec des choses ou des êtres qui nous font du bien. Et quand c'est des passions tristes, c'est que c'est des mauvaises associations. Ma question c'est, pourquoi est-ce que malgré le fait qu'on sache plus ou moins tous ça, on fait quand même de mauvaises associations?
Parce qu'on est naïf, on reste naïf. Et puis ce que dit Spinoza dans toute son œuvre, moi je l'ai étudié quand je faisais mon agrégé, mais il dit la chose la plus importante, c'est que les êtres humains ne changent pas. Fondamentalement, nous poursuivons notre être jusqu'au bout, avec des modifications d'apparence, on peut changer d'habit, on peut changer de langage, on peut changer de couleur, mais l'être humain, il est ce qu'il est, il se maintient dans son sillon jusqu'au bout. Quand il est méchant, il va être méchant jusqu'au bout. Quand il est bon et naïf, il va l'être jusqu'au bout, etc. Et moi, par exemple, j'ai la capacité de lire les visages. Quand je rencontre une personne pour la première fois, je me trompe rarement. Je sais qui elle est. Pas évidemment ce qu'elle pense et tout, mais je sais c'est une personne avec qui je peux faire un chemin ou pas. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'être en face d'un mafieux, mais vraiment un sale type. J'ai dit, putain, celui-là. Oh! Et pourtant, je me suis surpris beaucoup, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, à bosser avec lui, à faire des choses, à l'inviter, à se voir jusqu'au jour où effectivement il va se conduire comme un salopard. Et je me dis, mais je te l'avais bien dit, je vais parler à moi-même. Et pourtant, on se laisse avoir parce qu'on a toujours l'espoir que les autres sont plus intelligents que nous, ou alors on fait confiance à leur intelligence et à leur capacité d'humanité. Or, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette humanité en eux.
Mais Tahar Ben Jelloun, quand vous dites qu'en fait l'homme ne change pas, c'est un peu déprimant parce que ça veut dire que le déterminisme est total. Et moi, j'ai envie de croire qu'on
c'est
peut.
C'est pas un déterminisme, mais regardez autour de vous.
On peut s'améliorer tout de même. On peut s'élever.
On peut s'améliorer, mais l'erreur fondamentale dans toutes les relations humaines, que ce soit le couple d'amis, d'amitié ou le couple d'amour, c'est quand on essaie de changer l'autre. Ça, c'est fatigant. Il faut arrêter de vouloir changer l'autre personne. Ou bien on l'accepte telle qu'elle est avec ses défauts, ses qualités bien sûr, ou bien on s'en va. Mais quand vous tombez amoureuse ou amoureux d'une personne, eh bien il y a des choses qui vous ont attiré. Il n'y a pas d'autres qui vont venir avec. C'est comme ça. Ma mère me disait quelque chose comme ça. Elle me dit toujours, il faut prendre l'ensemble. Et l'ensemble, il y a de tout dedans.
C'est très bien dit. Tahar Ben Jelloun, il est l'heure de découvrir vos antidotes musicaux.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia,
peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Tar Ben Jeloun. 1960, reprise de la chanson composée et interprétée en 1930 par Augie Carmichael sur des paroles de Stuart Gorel, Georgia on my mind par Ray Charles, qui malgré toute la joie qu'il transmettait à travers le chant, était un être de douleur.
Oui, c'est vrai. Mais figurez-vous que cette chanson est devenue l'hymne national de l'État de Géorgie.
Alors qu'on lui avait interdit d'aller chanter.
Cet État qui vient de donner un sénateur démocrate à Joe Biden. Donc qui a sauvé on est dans la politique internationale, d'abord Ray Charles est un être exceptionnel, avec sa voix cassée magnifique, et cette chanson elle est un peu triste, mais en même temps elle chante l'âme d'un peuple qui a souffert. On a vite oublié que jusqu'en 1963 à peu près, les Noirs étaient tellement maltraités, tellement humiliés par le système blanc américain. Il y a pas longtemps, il y a quoi, 60 ans, hein, c'est rien.
Écris quelque chose de joli, des vers peut-être, ou de la prose, un instant de rêve et de pause, dans le tumulte de la vie. Écris quelque chose de joli, quelques mots de bleu et de rose, un moment de métamorphose que tu nommerais l'embellie.
1980, L'embellie de Jean Ferrat, que vous évoquez régulièrement en interview, Tar Ben Jeloun. D'ailleurs, l'un de vos personnages dans Le miel et l'amertume écoute Jean Ferrat qui chante Aragon.
Oui, parce que Jean Ferrat a été très important dans ma constitution, disons, culturelle. C'est un des premiers chanteurs français que j'ai beaucoup aimé, et surtout qu'il chantait Aragon. Et je trouve qu'Aragon est le plus grand poète du XXe siècle, avec peut-être Jean Genet qui a aussi écrit des choses terribles, mais Aragon est beaucoup plus grand poète, dans la mesure où il a Les yeux d'Elsa, pour moi, est un chef-d'œuvre absolu. Et je ne parle pas du personnage d'Aragon, c'est notre histoire, mais Aragon est un très grand poète. Et grâce à Ferrat, grâce à Brassens, grâce à Léo Ferré, qui ont tous chanté Aragon, j'ai été émerveillé de trouver que le poète que j'aime était avec les chanteurs que j'aime. Et vous voyez, tous ces chanteurs, ils ont une voix, ils ont une humanité qui, malheureusement, aujourd'hui, a disparu. On a remplacé tout ça par le bruit. Le bruit est une certaine chose saccadée qui fait que maintenant vous pouvez plus aller dans un restaurant, en dehors du Covid bien sûr, sans qu'on vous mette une espèce de zizi, c'est pas de la musique, c'est ou du bruit. Or, quand aujourd'hui la chanson française, c'est une chanson qui a donné beaucoup de place à la poésie, aux paroles, je veux dire. Et ça s'est perdu aujourd'hui. Il y a très peu de chanteurs qui ont des textes.
C'est vrai, mais Tar Ben Jeloun, il y en a très peu. Ça veut donc dire qu'il y en a quand même. Mais c'est vrai que c'est assez rare, mais il y en a, ils existent. Et là, vous avez choisi L'embellie de Jean Ferrat, qui est quand même très splinétique dans la mélodie et dans la façon de raconter les choses, mais il encourage malgré tout à écrire, à rendre,
écrire
à avoir la beauté,
joli.
la poésie qu'on retrouve dans Le miel et l'amertume, oui. Littéralement, puisqu'il en est question. Vous arrivez, vous, à avoir la beauté dans presque tout, dans la tristesse, dans...
Moi, j'ai commencé par écrire la poésie pour dire la beauté du monde, la beauté des choses, la beauté des femmes, etc. Et je continue Et je ne peux écrire la poésie que si je suis en contact ou dans une relation qui éveille chez moi l'urgence poétique. Quand j'écris pas de poésie, ça veut dire que je suis esselé, que je suis abandonné, que je suis plus avec la personne qui éveille chez moi la poésie. Et c'est très important ça. J'ai écrit beaucoup de poésie quand j'étais très jeune, à thème révolutionnaire, à thème de revendication, de rébellion. J'écris des poésies sur le Maroc, la répression, le Maroc des prisons, tout ça. Et petit à petit, je me suis calmé et je suis allé vers la poésie par amour. Et l'amour est des sentiments qui fait naître la poésie en moi et qui me donne des ailes pour écrire.
Vous venez d'évoquer le Maroc Tahar Ben Jelloun et c'est justement là que nous nous rendons. On entend le morceau Sola Grazia Part 2 de Joseph von Wissem et Squirrel sur la bande originale du film Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, qui met en scène des vampires, donc ça c'est parce que j'aime beaucoup la BO de ce film, et qui se passe en grande partie à Tanger.
Ah oui.
Et j'ai choisi cet extrait pour le plaisir et pour introduire musicalement votre tableau consolatoire, Tahar Ben Jelloun, le café marocain peint par Matisse à Tanger vers 1912. Oui. Matisse sur lequel vous avez écrit Lettres à Matisse et autres écrits sur l'art.
Oui, Matisse m'accompagne aussi un peu comme Aragon et les autres, parce qu'il m'a ouvert les yeux sur la lumière du Maroc et sur la peinture. Et depuis que je peins, j'essaie d'aller vers cette lumière et je suis très heureux tous les jours que je mets à la peinture. Et je suis à presque capté par cette lumière intérieure qui est celle de ce Maroc natal et qui est une lumière qui a ébloui Delacroix, qui a ébloui Matisse et bien d'autres, Claudio Bravo, le Chilien qui nous a quitté il y a quelques années, tous ces grands peintres qui sont venus au Maroc, même Bacon est venu au Maroc à la recherche de cette lumière, même si la peinture de Bacon n'est pas dans la lumière mais plutôt dans la déchirure et la destruction. Il a passé quelques semaines à Tanger, assez importantes dans sa vie.
Tanger qu'on retrouve beaucoup dans votre œuvre, Tahar Ben Jelloun. Mais pour revenir au tableau que vous avez choisi, le café marocain de Matisse, on voit des hommes flous qui se fondent dans l'harmonie de l'atmosphère turquoise. Ils se prélassent et ils regardent des poissons rouges dans un bocal. Il y a une volupté qui émane de ce tableau.
Une volupté, mais c'est un café marocain visité par Matisse parce que les Marocains ne savent pas ce que c'est qu'un poisson rouge. J'ai jamais vu de poisson rouge dans une maison marocaine.
Ah oui,
oui, c'est typiquement Matisse qu'il a inventé. Et en même temps, c'est un café qui peut être dans n'importe quel pays d'Orient. Ils sont là, une espèce de bonheur d'être, voilà. Et c'est ce qui est beau.
Tahar Ben Jelloun, vous dites que quand vous peignez, c'est une fête, c'est lié à la liesse, à l'euphorie, alors que l'écriture peut être beaucoup plus douloureuse.
Oui, un des catalogues de ma peinture s'appelle Douleur du monde, lumière du monde. C'est-à-dire finalement, quand j'écris, c'est forcément le miel et l'amertume. Il y a beaucoup d'amertume et pas assez de miel. Parce que je raconte une histoire atroce, un fait divers qui est arrivé à Tanger et qui a été gardé dans un silence coupable. Personne n'a parlé du viol de cette très 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 jeune fille, 16 ans, qui va mettre fin à sa vie. Et ça va détruire toute une famille, tout un monde, toute une vision du monde. Et on ne peut pas être dans cette écriture, même si je glisse un petit peu d'humour, je ne veux pas aller plus loin. Alors que dans la peinture, quand vous voyez ma peinture, la première chose qui saute aux yeux, c'est le Maroc. Même si j'ai fait une peinture totalement abstraite avec des couleurs, mais les couleurs que j'ai choisies sont des couleurs qui sortent directement de mon enfance, des premières fois que j'ai vu la mer, les premières fois que j'ai été dans un jardin, etc. Et ça ressort aujourd'hui d'une façon très naturelle.
Et on n'est pas loin de Matisse, d'ailleurs, dans les peintures que vous faites, Tahar Ben Jelloun.
Il paraît que ça ressemble... Bon, non, il y a de l'influence, mais c'est très différent. J'ai la chance inouïe d'avoir un style à moi que les gens reconnaissent. C'est ça qui fait que j'ai continué.
Tahar Ben Jelloun, on arrive au dernier remède bonus de cette émission. J'avais dit qu'on en parlerait, c'est l'amitié. Vous dites une réunion d'amis, les vrais. Ils sont rares, rire, boire, manger ensemble et fumer un cigare sous un arbre l'été en Toscane. Cela est possible. Vous avez écrit l'éloge de l'amitié, ombre de la trahison, car il y a toujours chez vous la lueur et la sombreur. L'amitié est une religion.
C'est une religion sans Dieu, sans diable, sans enfer, sans paradis, mais qui est essentielle, fondamentale. Fondamentale parce que c'est la chose la plus sûre dans la vie. Dans l'amour sexuel, il y a la trahison possible. On peut vous laisser tomber comme rien du tout, on peut vous abandonner. Un ami, non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas là pour gagner de l'argent ou pour se frotter sexuellement. On est là pour le plaisir gratuit d'être ensemble et de goûter la vie, peut-être de discuter, peut-être de ne pas être d'accord, mais on est là pour le plaisir et cet amour de se retrouver. Et malheureusement, cet automne, j'ai perdu pas mal d'amis par le Covid, au moins 5 qui sont partis, et mon chagrin a été tel que je ne savais plus que faire de ce chagrin. Et le dernier en date, lui, malheureusement, il n'est pas parti par le Covid. Le pauvre, il est parti par la maladie. C'est Vassilis Alexakis, le grand écrivain grec, et que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps pour son anniversaire. Et je savais qu'il allait nous écouter, mais on s'habitue jamais à l'absence. On s'habitue jamais à l'ami qui s'absente. C'est vraiment physiquement, c'est comme on enlève un membre du corps. On devient de plus en plus réduit à peu de choses.
Tahar Ben Jelloun, c'est pas évident de répondre à ce que vous venez de dire, parce que c'est très émouvant et assez triste. Alors je peux juste encourager tous les auditeurs à célébrer aujourd'hui leur amitié, puisque les amis, c'est la famille qu'on a choisie.
Tout
et
à
c'est
fait.
Très précieux. Et
il faut fréquenter les amis, il faut leur téléphoner, même si vous ne le voyez pas. Il faut tous les jours penser à eux. C'est très important, et parce que, bon, l'amour aussi est important. Mais l'amour, on sait, il a aussi ses moments difficiles.
Oui. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Tahar Ben Jelloun.
Merci à vous.
Ouais. Vous venez de publier, je le rappelle, Le miel et l'amertume aux éditions Gallimard, et en août dernier, dans leur collection jeunesse, La philo expliquée aux enfants. Chers auditeurs, les musiques, les remèdes sont sur le site de l'émission. Nous sommes sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme est aussi harmonieuse qu'une harpe volubile. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.